VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Bagassikoura.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du mardi 11 août 2005. À la une ce soir.
2015, un djihadiste revendique l'attaque du 7 août contre un hôtel de Sévaré au Mali.
République centrafricaine, des casques bleus accusés de viol et d'homicide à Bangui.
Au Nigeria, l'État ne va plus prendre en charge les pèlerinages des officiels.
Cette décision va favoriser la masse populaire. C'est seulement la classe politique qui va gagner parce que c'est eux qui vont toujours profiter de cet avantage.
Crash du vol MH17 de Malaysia Airlines. Les enquêteurs examinent des fragments qui pourraient provenir d'un missile russe solaire.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au moins 47 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées dans une explosion aujourd'hui sur un marché dans le nord-est du Nigeria, fréquemment visé par le groupe islamiste Boko Haram. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP des témoins. L'explosion a touché le marché hebdomadaire du village de Sabongari, situé à environ 135 km au sud de Maiduguri, capitale de l'état de Borno, à une heure de grande affluence vers 13h15, 12h30 GMT. Ont indiqué ses sources.
Au Mali, l'attaque du 7 août contre un hôtel de Sévaré a été revendiquée par un cadre djihadiste proche du prédicateur islamiste radical malien Amadou Koufa. Le point avec vous, Idriss Fall.
Souleymane Mohamed Kenen a déclaré que la main de Dieu a guidé les Moudjahidines à Sévaré et que 15 infidèles et leurs complices ont été tués. Le bilan officiel de l'attaque contre l'hôtel Biblos est de 13 morts. Souleymane Mohamed Kenen a ajouté que l'imam radical malien Amadou Koufa aurait donné sa bénédiction. Mohamed Kenen était membre en 2012 de l'aile malienne des combattants de Mokhtar Belmokhtar. Il a aussi affirmé que les Moudjahidines étaient derrière une autre attaque dans laquelle 3 militaires maliens ont été tués lundi vers Tenenkou. Selon le gouvernement malien, ces soldats ont péri suite à l'explosion hier d'un engin explosif au passage de leur véhicule près de Diabozo, dans la région de Mopti.
Présidentielle en Guinée, fin à Conakry de la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel, la coalition au pouvoir. Une convention bouclée par l'investiture du président sortant, Alpha Condé, comme candidat du parti à l'élection du 11 octobre. De son côté, la commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé l'augmentation du montant de la caution exigée des candidats, ainsi que la hausse du plafond des dépenses de campagne, multiplié par plus de 6. On fait le point avec Jacques Aristide.
La caution est en effet passée à 800 millions de francs guinéens, alors que le montant global des dépenses pouvant être engagées par candidat ou par parti politique dans le cadre de la campagne électorale est plafonné à 20 milliards de francs guinéens. Lors de la présidentielle de 2010, remportée par le président Alpha Condé, la caution s'élevait à 400 millions et le plafond des dépenses de campagne à 3 milliards. Cette caution sera remboursée aux candidats qui auront obtenu au moins 5% des voix d'après la CENI. La date du premier tour de la présidentielle a été confirmée au 11 octobre par un décret présidentiel publié hier soir, à la veille de l'investiture du président Condé par le Rassemblement du peuple de Guinée comme son candidat. C'est l'opposant et ex-premier ministre Sélude Alain Diallo qui sera le principal rival du chef de l'État sortant lors de cette joute électorale.
Les casques bleus de nouveau accusés de crimes en République centrafricaine, Amnesty International rapporte le possible viol d'une fillette ainsi que l'homicide d'un adolescent de 16 ans et de son père. Conséquence, la MINUSCA ouvre une enquête sur ces abus qui auraient été commis au cours d'une opération armée à Bangui début août.
Présidentielle rwandaise, le Parlement autorise la réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. D'après les législateurs, seuls 6 électeurs se sont opposés à l'amendement de l'article 101 lors des consultations populaires à travers le pays. Rappelons que cet article limite à 2 le nombre de mandats présidentiels successifs.
Par ailleurs, dans un autre développement, Kigali se félicite de l'abandon de la procédure d'extradition contre le chef des services secrets Emmanuel Karenzi Karake, arrêté mi-juin à Londres. Il est désormais libre de rentrer dans son pays. Nous entendrons les autorités rwandaises en seconde partie de cette émission.
En République démocratique du Congo, le Sénat a voté une loi sur la répartition des sièges, texte nécessaire pour l'organisation d'élections locales contestées prévues en octobre. À noter que le vote s'est tenu en l'absence de l'opposition qui a boycotté la séance.
En RDC toujours, les Nations Unies se disent très préoccupé de la disparition du bienvenu Matumo. Ce militant de la lutte pour le changement, la Lucha, a disparu samedi à Kinshasa. S'il est arrêté, on espère qu'il y aura une explication, a déclaré à l'AFP le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC.
Un millier d'immigrés expulsés du Gabon en 2 mois. Les ressortissants étrangers avaient jusqu'en juin dernier, date butoir fixée par le gouvernement de Libreville, pour régulariser leur situation ou quitter le territoire gabonais. La correspondance de Jean Rovis Dabani à Libreville.
Depuis quelques jours, la police se livre à des contrôles et expulse ceux qui n'auraient pas obtempéré. Longtemps considéré comme un Eldorado, le Gabon, avec une population de moins de 2 millions de personnes, accueillait jusqu'en juin de 100 à 150 000 étrangers sur son territoire. Depuis son lancement, le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangu, considère l'opération de régularisation comme un succès. Plus de 10 000 étrangers ont régularisé leur situation malgré le coût prohibitif des titres de séjour. 500 à 600 000 francs CFA selon les nationalités, sans compter le pourvoi glissé pour accélérer le travail de l'administration. M. Mapangu a également assuré dans un communiqué que tout a été organisé pour prévenir toute forme de dérapage. Avec ce départ précipité des ressortissants ouest-africains transitant par plusieurs pays pour rejoindre le leur, on a flouré l'incident diplomatique. Certains pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, ne sont pas prêts d'oublier la réaction du gouvernement gabonais. L'ONG sénégalaise Horizon Sans Frontières a indiqué dans un communiqué que ce n'est pas la première fois que le Gabon maltraitait les ressortissants sénégalais sur son sol. M. Mapangu a nié farouchement ces accusations, expliquant que l'ambassadeur du Sénégal au Gabon avait bien assisté à l'opération de rapatriement. Selon le ministère de l'Intérieur, ces immigrants ont embarqué via le port de Libreville sur un bateau, battant pavillon camerounais jusqu'au port nigérien de Calabar, le plus proche de la frontière gabonaise.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, cette découverte concernant le vol MH17 de Malaysia Airlines. Les enquêteurs ont trouvé des fragments qui pourraient provenir d'un missile russe sol-air. Dans un communiqué ce mardi, les juges néerlandais affirment que les enquêteurs de plusieurs pays sont en train de vérifier plusieurs parties éventuellement provenant d'un missile sol-air. Le vol MH17 s'est écrasé le 17 juillet de l'année dernière dans la région de Donetsk, un territoire ukrainien tenu par les séparatistes pro-russes. Les 298 personnes qui étaient à bord, la plupart d'entre eux néerlandais, ont été tuées.
L'armée turque affirme que ses avions de guerre ont attaqué 17 cibles des rebelles kurdes dans le sud-est de la Turquie. Selon un communiqué, ces bombardements ont visé des positions du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, dans la province de Hakkari, à la frontière avec l'Irak et l'Iran. Ces attaques font suite à la mort lundi de 9 personnes dans des attaques attribuées au PKK dans la province voisine de Sirnak et à Istanbul.
La marine militaire italienne a annoncé avoir secouru quelques 170 migrants à bord de 2 canots pneumatiques en difficulté au large de la Libye. C'est ce que rapporte l'AFP. La presse italienne a, elle, évoqué jusqu'à une cinquantaine de disparus. Selon plusieurs médias italiens, dont le site internet de l'agence ANSA, le second canot était en partie dégonflé et en train de couler quand il a été repéré par un hélicoptère de la marine qui a immédiatement largué des radeaux de survie.
Et ici aux États-Unis, calme relatif la nuit dernière à Ferguson. Pour la deuxième nuit consécutive, la police a affronté les manifestants, des heurts qui ont toutefois baissé en intensité, alors que l'état d'urgence demeure dans cette ville du Missouri. On fait le point avec Nicolas Pilneau.
Oui, la police a encore arrêté plusieurs personnes à Ferguson alors qu'un adolescent noir a été inculpé après avoir tiré sur la police. Il a été grièvement blessé par 3 policiers qui ont riposté au tir. Il se trouve toujours à l'hôpital dans un état critique. Les manifestants ont battu des tambours et scandé des slogans, jetant des bouteilles et des pierres sur les policiers qui ont fait usage de spray au poivre et arrêté plusieurs personnes encore hier soir. Nous continuons de soutenir la liberté d'expression, mais les agitateurs qui ne répondent pas aux appels à se disperser risquent risque d'être arrêté, a prévenu le département de la police du comté de Saint-Louis, dont dépend Ferguson, sur Twitter. Ces affrontements sont intervenus après des violences qui avaient poussé les autorités à décréter l'état d'urgence dans la ville. On se souvient que de violentes émeutes avaient agité Ferguson en novembre dernier. Elles s'étaient propagées à d'autres grandes villes américaines après l'annonce de l'abandon des poursuites contre le policier blanc qui avait tué Michael Brown, un jeune noir américain non armé.
C'est une première au Japon depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Une compagnie d'électricité a redémarré un réacteur nucléaire ce mardi. Selon Kyushu Electric Power Company, l'usine de Sendai devra générer de l'énergie d'ici vendredi et être à pleine capacité d'ici le mois prochain. Les installations nucléaires du Japon avaient été fermées pendant 2 ans pour subir des contrôles de sécurité. Le gouvernement veut porter la production d'énergie nucléaire à plus de 20% d'électricité du pays en 2030. La majorité de la population japonaise, elle, est opposée à la mise en marche de ces réacteurs.
La Chine a-t-elle manipulé sa monnaie ? Ce mardi, le yuan, monnaie fortement contrôlée, a subi sa plus forte baisse en une journée depuis 2 décennies.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et c'est sur VOA Africa. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Eco ce soir avec Jean-Roger Bion.
Amnistie fiscale en Algérie, les Algériens sont invités à se mettre volontairement à jour depuis le 2 août 2015. L'Algérie, confrontée à une nette chute de ses recettes pétrolières, veut mobiliser les sommes colossales qui circulent dans l'économie et qui pourraient atteindre 1 milliards de dinars, environ 10 millions de dollars. En échange, l'État algérien ne procédera à aucune poursuite pénale. Seul un taux de 7% sera prélevé sur les montants déposés et réinjectés dans le budget de l'État. Air China va desservir Johannesburg et Addis Abeba selon le site jeuneafrique.com. La compagnie publique chinoise démarre ses vols directs vers le hub sud-africain le 29 octobre prochain. Une liaison Pékin-Addis Abeba devrait être inaugurée le 2 novembre. Active sur le continent dans les années 1970, Air China y avait depuis longtemps suspendu ses opérations directes, se contentant d'accords avec 3 opérateurs africains, Egypt Air, Ethiopian Airlines et South African Airways. 19,9 milliards de francs CFA pour recenser la population burkinabé en 2016. La réalisation de ce recensement vise à actualiser la base et les indicateurs socio-économiques et démographiques permettant d'apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et programmes de développement. Le dernier recensement de la population burkinabé a été effectué en 2006 et avait compté quelque 14,02 millions d'habitants.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Supercoupe d'Europe aujourd'hui, 100% espagnol.
Le FC Barcelone, vainqueur du triplé Liga, Coupe, Ligue des Champions, repart en chasse avec la Supercoupe d'Europe contre Séville ce soir. Les Blaugrana viseront, malgré l'absence de Neymar, un 4e titre sur 6 possibles en 2015. A noter que le match se jouera à Tbilissi, en Géorgie.
Basket, tournoi de Dakar.
Ce tournoi qui sert de préparation à l'Afrobasket en Tunisie est perturbé, vous le savez, par le forfait de la Côte d'Ivoire. Une équipe B du Sénégal a été battue hier par le Cap-Vert 58-73. Dans l'autre rencontre, l'équipe masculine A du Sénégal a obtenu sa 2e victoire du tournoi. Les Lions ont battu 61-52 l'équipe du Mali.
Réforme en cours à la FIFA.
L'avocat suisse François Carrard, ancien directeur général du Comité international olympique, a été nommé à la tête du comité de réforme de la FIFA. Carrard, 77 ans, avait été le coordinateur du comité de réforme du CIO en 2000, après le scandale concernant l'attribution des Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City. Il est vital pour l'avenir du football mondial de restaurer l'intégrité et la réputation de son organe dirigeant, avance Carrard. En tant que président indépendant, je m'engage à produire les réformes nécessaires.
Foot, rubrique transfert.
Oui, l'international français Mathieu Valbuena a signé à l'Olympique lyonnais. La durée du contrat et le montant du transfert n'ont pas été révélés. Le milieu offensif avait été transféré de Marseille au Dynamo de Moscou lors du Mercato 2014 pour une somme de 7 millions d'euros. Et un contrat de 3 ans.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Bagassi, le Rwanda.
Oui, le gouvernement de Kigali veut s'attaquer à un système d'abus de compétences universelles qu'il qualifie de néocolonialisme judiciaire. C'est la déclaration du directeur général chargé des affaires multilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération à la suite du non-lieu prononcé dans l'affaire du chef de service secret rwandais, le général Emmanuel Karenzi Karake, arrêté à Londres à la demande de l'Espagne. Suivez Olivier Nduhukingire, joint à Kigali par Eric Manirakiza.
La réaction du gouvernement rwandais a été une réaction de joie et de satisfaction, parce que comme on dit toujours, il n'y a pas de cas en fait. Et que ceci est un cas flagrant d'abus de la compétence universelle pour des motifs spécifiques. Donc le Rwanda a été satisfait par cette décision.
Il a été détenu pendant plus de 7 semaines. Quelle est la suite à réserver à cette détention et est-ce que cette relaxation est-elle suffisante?
Le Rwanda, bien sûr, explore toutes les options. Mais une chose est sûre, c'est que tous ces cas d'abus de compétences universelles par des pays, même africains, doivent cesser, et qu'il y ait une relation de respect mutuel entre États, entre partenaires. Et donc, nous, on va continuer à nous battre contre cet abus, cette situation qu'on a appelée le colonialisme judiciaire. Donc, le Rwanda et l'Union africaine, dans son ensemble, ne pourra jamais accepter que cette situation perdure.
Ce n'est pas le premier incident du genre. Il y a eu le cas de Mme Rose Kabuye. Comment vous interprétez cela?
Justement, l'Union africaine, en 2008, à Sharm el-Sheikh, avait adopté une résolution des chefs d'État pour condamner cette situation d'abus de compétences universelles. Et le cas de Rose Kabuye qui est arrivé en 2008, qui est suivi par le cas du lieutenant général Khalid Bidara qui est en 2015, nous montre que les États européens n'ont pas compris notre requête et on va continuer à nous battre pour que la souveraineté africaine sur les questions judiciaires soit respectée.
Est-ce que les risques d'arrestation du genre vont-ils dissuader certains officiels rwandais à se rendre dans certains pays occidentaux?
Je pense que sur ce cas d'inculpation lancé par le juge espagnol Fernando André Meirelles, en fait l'affaire est carrément pliée. On s'attend à ce que tous les mandats soient levés et donc il n'y aura aucune entrave à la circulation ou au voyage d'officiels rwandais en Europe.
Voilà, c'était Olivier Nduhugire, directeur général chargé des affaires multilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda. Il était joint à Kigali.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari poursuit ses efforts d'assainissement des finances publiques et de lutte contre la corruption, un phénomène endémique dans le pays. Récemment, il a mis en place une commission pour l'aider dans ses efforts contre la corruption. Il a aussi décidé d'interdire la prise en charge des officiels et de leurs proches qui se rendent aux pèlerinages musulmans et chrétiens. Une mesure qui permet d'économiser 1 million de dollars par an, Bagassi.
Et pour Ali Buhari, enseignant de littérature francophone à l'université de l'État de Nassarawa à Kefi, près d'Abuja, c'est une bonne décision que l'État se retire de ces questions religieuses.
Si un pays se proclame laïque, ce pays n'a rien à foutre de se mêler avec les affaires religieuses, que ce soit musulman ou chrétien. Depuis l'accession du pays à l'indépendance en 1960, le Nigeria a dépensé des milliards de dollars pour sponsoriser les pèlerinages à la Mecque et les pèlerinages à Jérusalem pour les chrétiens. Donc si cette année seulement le gouvernement fédéral compte économiser 1 million de dollars, multiplier 1 million de dollars par les 5 à 5 ans de l'accession du pays à l'indépendance, et vous verrez que c'est une grande somme qu'on a dépensée pour rien, au lieu d'utiliser cet argent pour donner l'emploi aux jeunes, pour développer l'agriculture.
Comment est-ce que les différentes communautés religieuses ont réagi, les musulmans et les chrétiens notamment?
Les gens qui vont gagner, c'est les gens qui, des années, ont bénéficié de cet avantage. Qui sont les bénéficiaires? Ce sont des politiciens et leurs membres des familles. Ce sont les farouches partisans du parti au pouvoir. Et ce sont aussi les mouchards et les griots politiques qui savent louer les lois du parti au pouvoir.
Et ce que vous voulez dire, c'est que même au sein de ces communautés religieuses, hein, les gens applaudissent une telle décision.
Exactement. Cette décision va favoriser la masse populaire. C'est seulement la classe politique qui va gagner. Parce que c'est eux qui auront toujours profité de cet avantage. Le président Buhari était parti chez vous là-bas aux États-Unis. Combien est-ce que le président Barack Obama lui a promis pour lutter contre Boko Haram? Il lui a promis 5 millions de dollars. Alors, 5 millions de dollars, combien de fois on dépense plus de 5 millions de dollars au Nigeria ici pour sponsoriser le pèlerinage?
Parlant de lutte contre la corruption, hein, vous savez, c'est le cheval de bataille de Muhammadu Buhari. Comment est-ce que ces décisions de lutter contre la corruption sont appréciées jusqu'à présent?
C'est bien vu par la classe politique et même par la masse populaire. Parce que nous sommes arrivés au bout du gouffre. Rien ne marche dans le pays. Même le gouvernement fédéral arrive difficilement à payer les salaires de la fonction publique. Donc le pays est totalement en crise financière.
Voilà, c'était le professeur Ali Buhari, enseignant de littérature francophone à l'Université de l'État de Nassarawa, à Kefi, près d'Abuja, la capitale fédérale.
En République démocratique du Congo, le Sénat a adopté à l'unanimité la loi sur la répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines. Sur les 108 membres qui composent le Sénat, 77 ont pris part à cette nouvelle session extraordinaire. Plusieurs sénateurs, surtout ceux de l'opposition, avaient appelé au boycott de la séance qu'ils jugent inconstitutionnelle. Reportage de Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il s'agissait d'un texte de deux articles seulement qui vient d'être adopté par les sénateurs. Le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, s'est réjoui de ce travail.
Les jours du premier vote, tout le monde n'était pas dans la salle. Aujourd'hui, nous avons convié tout le monde est là. Voyez, à l'unanimité 77, vous avez suivi, c'est moi qui ai convoqué cette séance. La salle n'était pas assez réunie avec les sénateurs. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Il faut juger le présent.
Même sentiment exprimé par le sénateur Léonard Cheokitundu, qui fait savoir ensuite que ce projet de loi est important pour la suite du processus électoral en cours en RDC.
Ici, même ceux qui étaient pour la loi, certains n'ont pas pu venir parce que certains sont partis à l'extérieur et puis le calendrier de voyage ne leur permettait pas de venir. Et s'ils étaient là, je crois que le vote pour aurait été encore beaucoup plus écrasant. La CENI avait besoin de ce texte pour procéder à la répartition des sièges et par conséquent, ce texte était déterminant.
Les textes de loi a été adopté en des termes identiques avec l'Assemblée nationale, ce qui ne va pas susciter la mise en place d'une commission mixte paritaire. Et les sénateurs Lola Kisanga, qui est en même temps le rapporteur adjoint du Sénat congolais, d'informer que ce projet de loi sera transmis sans entendre au président de la République pour promulgation.
Le Parlement vient d'approuver ce travail technique parce qu'il appartient et au gouvernement et à la CENI d'exécuter le projet de loi que nous venons de voter et que nous allons transmettre au président de la République pour promulgation.
Rappelons que ce projet de loi a été adopté en l'absence des sénateurs de l'opposition qui ont trouvé inopportune la tenue de cette session extraordinaire parce que, selon eux, l'urgence ne s'est présentée pas. Mais pour les sénateurs de la majorité, la tenue de cette session est fondée. Les sénateurs Congo.
Si vous avez bien suivi la lettre de demande de convocation de cette session extraordinaire, tout a été expliqué. Il y a une justification politique et il y a un fondement constitutionnel et réglementaire. Quand je dis réglementaire, je pense à notre règlement intérieur du Sénat, l'article 75 en l'occurrence. Les sénateurs se sont assumés. Ils se sont assumés en revenant sur un vote qui n'était qu'un incident, le vote du 31 juillet 2015.
Le projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale concerne les élections municipales et locales. Kinshasa, Gino Rema des Top Congo FM pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur le 50e anniversaire du Voting Rights Act aux États-Unis. la loi garantissant l'accès des Africains-Américains au vote. Une victoire pour Martin Luther King. Mais 50 ans après, les minorités sont-elles toujours confrontées à des restrictions? La lutte pour le droit de vote, quelle inspiration pour l'Afrique? Que reste-t-il à faire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
En Afrique du Sud, une nouvelle loi sur l'immigration n'autorise plus la conversion de visa touristique en visa d'études ou en permis de travail. La loi va avec de nombreuses autres restrictions, rendant la vie difficile à beaucoup de migrants. Pour nous en parler, dit Sango Ajoin à Johannesburg, un migrant congolais expert en fiscalité, Willy Makulu.
L'ancienne loi permettait à ce que quand vous êtes sur le territoire sud-africain, de pouvoir convertir le visa de visiteur ou le visa médical à un long séjour. Maintenant, on n'accepte plus. C'est à une exception près, pour sauver une vie humaine, on peut peut-être extendre. Mais si vous voulez faire l'extension, vous devez demander ça 60 jours en avance. Pour le business, vous devez en principe avoir, si vous voulez investir en Afrique du Sud, un montant que le ministère de l'économie et industrie doit constater que vous avez un dépôt dans votre compte. Si vous êtes marié, vous avez vécu pendant 2 ans ensemble, on peut donner un séjour momentané pour le partenaire ou la partenaire. Alors si vous avez vécu pendant 5 ans, à ce moment-là, vous pouvez faire l'application pour une résidence permanente.
La nouvelle loi n'autorise plus aux étrangers qui viennent ou migrants qui viennent en Afrique du Sud de convertir leur visa touristique ou de visite en visa d'études, par exemple, ou en permis de travail. Et il semble que c'est pour protéger l'emploi en Afrique du Sud. N'êtes-vous pas de cet avis?
Le mal est que si je prends un cas de figure, le médecin sud-africain, après les études, quand il travaille, il préfère aller à l'extérieur, vers la Nouvelle-Zélande, en Australie. Mais alors, vous voyez, il y a assez manque là, il y a aussi beaucoup de médecins congolais qui viennent, les médecins zambiens qui viennent, tout ça. Alors on veut un peu casser ce rythme-là, que les médecins viennent pallier un peu à ces carences-là ou à ces manques-là, tout ça. Bon, c'est une façon de pouvoir protéger la main-d'œuvre sud-africaine dans l'ensemble.
Pouvez-vous être plus clair? Donc on accorde plus facilement des visas aux médecins qu'aux autres ou à certaines catégories de personnes?
Généralement, je prends le cas par exemple de médecins congolais pour... Quand on accepte, vous devez avoir le statut qu'on vous a reconnu comme réfugié. Pas seulement demandeur d'asile, donc asylum seeker, pas demandeur d'asile, mais celui qui est reconnu comme réfugié a la possibilité de pouvoir passer le concours et travailler dans un hôpital de l'État. Vous devez maintenant avoir le permis de travail pour venir travailler en Afrique du Sud. Donc vous devez faire la demande. L'ambassade vous octroie le visa de travail à partir de votre pays d'origine.
Il semble que les contrôles se font. On arrête les gens, on interpelle, on va même dans les églises.
Il y a une opération qu'ils appellent Safiela. Ils vont là où il y a une grande masse d'étrangers. Dans le quartier, par exemple, on appelle Ilbro, Yuvel. Il y a beaucoup, une forte concentration d'étrangers. Ils vont là-bas. Si vous êtes en ordre, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas en ordre, on vous arrête pour la déportation.
Voilà, c'était Willy Makulu, un membre de la communauté des immigrants en Afrique du Sud.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà la mise en onde ce soir, Giorgio Leonard Sagnon, présentation Morgane Guiriec et Bagassi Koura.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos dans un instant.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.